RFI, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Le dernier journal africain de votre matinale. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes confrontées à un afflux de réfugiés burkinabés et qui réfléchissent aux moyens d'encourager les retours volontaires. À l'heure où le président de la transition burkinabé, le capitaine Traoré, accuse de son côté son voisin d'héberger des terroristes et des opposants. L'Europe à la recherche d'hydrogène vert pour sa transition énergétique. Objet de discussion cette semaine en Mauritanie. Une délégation de l'Union européenne avait fait le déplacement. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui dévoile son rapport 2022 au Sénégal. 9 enquêtes transmises au procureur qui décidera ensuite d'une éventuelle suite judiciaire. Et puis du foot, l'affiche de la Ligue des champions africaine enfin connue, ce sera Espérance de Tunis contre l'Al Ahly du Caire. Un casse-tête pour la Côte d'Ivoire, confronté donc à un afflux de réfugiés venus du Burkina Faso. Près de 55 000 personnes qui seraient ainsi massées le long de la frontière commune côté ivoirien. Et ce qui fait donc que les sites d'accueil sur place sont saturés. Beaucoup de réfugiés sont hébergés dans des famillotes. La Côte d'Ivoire étudie donc la manière d'encourager le retour volontaire au pays, Binta Diagne. Mais pas question ici de rapatriement forcé.
Selon un démenti du ministère de l'Intérieur, aucun plan de rapatriement n'a été évoqué lors de la réunion au sujet de la gestion des réfugiés au Nord qui rassemblait autorités, diplomates et humanitaires mercredi. D'après ce communiqué, une équipe technique devrait être mise en place la semaine prochaine. Son rôle, réfléchir d'une part sur les conditions d'assistance immédiate des réfugiés et d'autre part sur le processus d'encouragement au retour vers le Burkina. Fin de citation. Nous avons convenu que l'objectif, c'est de s'assurer que les réfugiés qui sont là puissent repartir dans les plus brefs délais dans leur pays, indique Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, interrogé par la RTI. Ce responsable évoque notamment des initiatives de retour entreprises par certains réfugiés ces derniers mois, mais il faudrait pouvoir créer les conditions pour leur retour, ajoute le ministre. Pour répondre aux besoins des réfugiés, en juillet 2023, 2 sites d'accueil ont été ouverts dans le Tchologo et dans le Bunkani. Ces 2 sites peuvent accueillir jusqu'à 12 000 personnes, mais ils sont actuellement saturés. La majorité des réfugiés est logée dans des familles d'accueil dans les localités proches de la frontière. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Et de l'autre côté de la frontière, justement, autre son de cloche hier, dans un long entretien accordé aux médias publics, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, abordait les relations entretenues avec la Côte d'Ivoire, relations pour le moins tumultueuses. Malgré une rencontre la semaine dernière à la frontière, au cours de laquelle les ministres de la Défense des deux pays avaient affiché leur volonté d'un nouveau départ, eh bien cela semble mal engagé, car le chef de l'État burkinabé a accusé son voisin d'héberger des opposants à son régime, mais aussi des terroristes. Pour le capitaine Traoré, la Côte d'Ivoire est ainsi devenue une base arrière pour les groupes armés qui attaquent son pays. Il parle d'un problème. Je vous propose de l'écouter.
Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème, il y a un problème.
Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara?
Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. La dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant.
Le capitaine Ibrahim Traoré sur les ondes de la RTB. 47 millions d'euros pour la lutte antiterroriste au Bénin. Une enveloppe promise par l'Union européenne à l'occasion d'un déplacement du président du Conseil européen, Charles Michel, qui refermait hier une visite de 24 heures dans le pays. Épilogue pour lui d'une tournée ouest-africaine. L'Europe, qui cherche par ailleurs comment se rapprocher de ses objectifs de transition énergétique. Et l'Europe qui se tourne donc vers la production d'hydrogène vert, c'est-à-dire la production de gaz propre, entre guillemets, issu d'autres énergies renouvelables comme l'eau, le vent ou le soleil. Des ressources que peut offrir notamment la Mauritanie, raison pour laquelle une délégation de l'Union européenne a fait le déplacement à Nouakchott et à Ouagadougou cette semaine, Léa Breuil.
Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a ouvert la rencontre en saluant la présence de 17 entreprises européennes intéressées par le développement de l'hydrogène vert. Tout en rappelant l'intérêt d'établir un partenariat avec l'Union européenne, il a souligné les atouts énergétiques dont dispose la Mauritanie.
Nous avons un potentiel parmi les potentiels les plus riches dans le monde, à la fois solaire et éolien. Nous avons actuellement une centrale de 100 MW éolienne. On a aussi la façade atlantique. Et nous mettons ce potentiel à la disposition des Européens en raison des relations qui nous lient, en raison aussi de notre besoin à développer rapidement ces énergies et à en tirer profit. Également pour le développement de ces mines, pour faire de l'acier vert.
Un partenariat gagnant-gagnant, selon William Jones, l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie. Il précise qu'il peut permettre à l'Europe d'importer ce gaz pour contribuer à répondre à ses besoins énergétiques, mais aussi contribuer à décarboner le secteur de la sidérurgie en Europe.
La Mauritanie, c'est un des grands exportateurs des minerais de fer. Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité de mettre ensemble la production d'hydrogène vert avec une première étape de transformation sur place des minerais vers ce qu'on appelle les pellets, ce qui créera évidemment de l'emploi ici.
Selon l'ambassadeur, l'objectif est aussi d'accompagner la Mauritanie dans ce nouveau processus complexe à travers la mise en place d'infrastructures, de formations techniques et professionnelles ou de cadres réglementaires pour attirer de nouveaux investisseurs mais aussi rassurer ceux déjà bien engagés comme l'entreprise britannique Chariot en consortium avec Total. La Mauritanie travaille sur l'élaboration d'un code de l'hydrogène vert qui devrait être promulgué dans les prochains mois. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
Des allégations et des visant à susciter l'intérêt des médias. Voilà en substance la réaction du Rwanda hier, après que la RDC a accusé le géant américain Apple d'utiliser des minerais extraits illégalement de son sous-sol et revendus par le Rwanda. La campagne électorale qui se refermera ce soir en RDC, dernière ligne droite avant les élections des gouverneurs prévues lundi dans 22 des 26 provinces du pays. Au Gabon, la dernière ligne droite pour le dialogue national, grande assemblée plénière prévue aujourd'hui à Libreville, avant la clôture officielle annoncée mardi. Les travaux réalisés dans les différentes commissions seront présentés. Au Sénégal, cela fait 10 jours que le président Bassirou Diomaye Faye a ordonné aux organes de contrôle de l'action publique de révéler leur rapport des 5 dernières années. Appel entendu uniquement pour l'instant par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC a dévoilé son rapport d'activité pour 2022 avec les conclusions de 9 enquêtes concernant pour la plupart des élus de l'ancienne coalition au pouvoir et qui ont été transmises au procureur de la République, libre à lui désormais d'entamer des poursuites ou non. Mais pour Abdoulmaliki Bousso, il n'y a pas débat. Membre du Forum civil, organisation de la société civile, il plaide depuis longtemps pour que la justice s'empare plus efficacement de ce genre de rapport.
Tout ce qui est délit, crime financier, économique, devrait faire l'objet d'une saisine directe des réceptions du rapport ou bien des extraits de ce rapport-là par le procureur de la République, que le dossier soit envoyé en instruction à travers un juge d'instruction. Et je crois que les assises à venir de la justice vont s'intéresser à cela, encadrer les pouvoirs du procureur de la République, faire en sorte que dès qu'il y a allégation de malversation ou de crime, délit économique et financier, que les juridictions appropriées soient saisies, que ce soit le pôle judiciaire financier, que ce soit les juridictions normales, mais que le dossier soit mis en instruction.
Abdoulmalik Bousso au Sénégal. Ce sera donc un classique de clubs d'Afrique du Nord. On parle football et de l'affiche de la Ligue de la finale de la Ligue des champions africaine, Thomas de Saint-Léger. Ce sera entre l'Espérance de Tunis et l'Al Ahly du Caire.
Le Al Ahly, vainqueur sortant, autoritaire, tenu en échec 0-0 par le tout-puissant Mazembe au match aller. Les patrons du football africain ont fait la différence, comme souvent, chez eux, au Caire, victoire 3-0 face à des Congolais qui pourtant n'auront pas démérité. Loin de là, les joueurs de Lamine Diaye pensaient même avoir ouvert le score par Joël Beya, but finalement refusé après consultation de la VAR pour une main. Ensuite, à l'expérience, les Égyptiens ont marqué 3 fois en fin de rencontre, 68e minute, 84e et enfin dans les arrêts de jeu pour crucifier les Corbeaux et se qualifier pour leur 17e finale de Ligue des Champions. Ils viseront un 12e titre face à un quadruple vainqueur du trophée, l'Espérance de Tunis, légèrement en retrait depuis leur doublé 2018-2019. Les espérantistes ont fait fort en se qualifiant face au Mamelodi Sundowns à Pretoria. sous le déluge de pluie, hélas, plutôt que de but, 1-0, comme à l'aller, grâce au jeune défenseur Raïd Bouchniba, héros d'un soir. En attendant la suite, les deux matchs de la finale sont prévus les 18 et 25 mai prochains.
Thomas de Saint-Léger pour refermer notre journal. Vous retrouvez maintenant Namouri Dosso pour le débat africain.